merci de nous retrouver pour cette émission exceptionnelle de Radio Galère, puisque contrairement à notre habitude, le mardi de 15h à 16h, nous faisons une chronique de la semaine internationale écoulée. Et aujourd'hui, pour des raisons de contrainte d'emploi du temps sur lesquelles je ne veux pas m'étendre, on a décidé de recevoir exceptionnellement une interviewée que je vais vous présenter pour parler de son dernier livre, en espérant, mais en étant quasiment sûr, que ce ne sera pas la première fois que vous l'entendrez sur les ondes de Radio Galère dans notre émission, parce qu'elle a beaucoup écrit, elle a beaucoup publié déjà, dans le cadre donc d'un parcours universitaire exemplaire, comme on dit, elle a coché toutes les cases, bon, normal, l'agrégation, le doctorat, elle est aujourd'hui maître de conférence à l'Université d'Aix-Marseille et directrice adjointe de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme. Voilà, ce portrait fait. J'allais commencer par une autre question qui est qu'en fait, dans tous vos travaux, parce que j'en ai lu un certain nombre, mais pas tout, parce que vous avez déjà beaucoup, beaucoup produit, Marseille est toujours là. Alors pourquoi ? Est-ce que c'est vos origines ? Est-ce que c'est un attrait ? Est-ce que c'est un amour pour cette ville ? Voilà. Je commence par cette question. Donc vous êtes Céline Rognard, que j'ai présentée succinctement et qu'on est très heureux d'écouter. Et puis on est en présence d'Habib, qui est là toutes les semaines, qui est là pour représenter un peu l'œil syrien, la voix de la Syrie contemporaine dans cette émission. Merci en tout cas d'être avec nous.
Écoutez, merci. C'est moi qui vous remercie de cette invitation. Je suis très heureuse d'être ici. Merci aussi pour la présentation. Alors, pourquoi Marseille ? Ça, c'est une... Donc, vous avez très justement remarqué, effectivement, que Marseille est au cœur de mes travaux depuis plus de 20 ans maintenant.
Il y a un tropisme.
Oui, oui, bah, c'est la ville dans laquelle je suis arrivée. Je ne suis pas native de Marseille. Mm-hmm. J'y suis arrivée pour des raisons personnelles au début des années 2000. Mm-hmm. Et je voulais faire une thèse d'histoire. Et tout de suite, la ville, évidemment, m'a extrêmement intéressée. Alors, je dirais pas fascinée, parce que justement, j'essaye d'échapper à la fascination de Marseille, mais on pourra en reparler.
Oui, 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 oui.
Mais intéressée, je la trouve extrêmement intéressante d'un point de vue historique. Et au départ, moi, je voulais faire une thèse en histoire de l'immigration à Marseille. Bon, ça ne s'est pas fait parce que c'était pas dans l'air du temps, disons, scientifiquement, dans les années 2000. Du coup, j'ai fait une thèse sur la violence à Marseille. On en reparlera peut-être.
Oui.
Mais évidemment, par ce biais-là, par cette thèse, eh bien, j'ai trouvé toutes sortes de personnes, toutes sortes de trajectoires. C'est ça qui m'intéresse, en fait. Hein. C'est Marseille et c'est les trajectoires de vie. Et donc, dans les archives de la police et de la justice que je travaillais à ce moment-là, il y avait toutes ces histoires. Ça me fascinait énormément. Et voilà, donc j'ai fait cette thèse sur l'histoire de la violence à Marseille. Et puis ensuite, quand j'ai eu la chance d'être recrutée à l'université, bah, j'ai réorienté mes travaux vers ce qui m'a toujours passionnée, c'est-à-dire les histoires de migrants, de migrantes et de migration.
Voilà. Et donc, ne pas être fasciné, ça veut dire prendre la distance scientifique, puisque vous faites un travail d'historienne avec toutes les méthodes scientifiques de l'histoire, pour ne pas céder, ce que je disais en présentant votre émission et vos livres la semaine dernière, ne pas céder à la une du journal. C'est pas ça, Marseille, c'est beaucoup plus que ça. Ça, c'est pour les autres.
Exactement. Bah, c'est-à-dire, ça, c'est venu assez rapidement, parce que lorsqu'on dit à tout un chacun qu'on fait une thèse sur la violence à Marseille, tout de suite, ça fait appel à des fantasmes et des représentations qui sont extrêmement envahissantes. Alors, la question habituelle qu'on me posait, c'est « Ah, et il y en a beaucoup de la violence à Marseille,
voilà, c'est ça.
Qui n'était pas exactement la question que je posais dans ma thèse. La question que je posais dans ma thèse, c'était que sont les violences interpersonnelles à Marseille et qu'est-ce qu'elles veulent dire de la population de la ville ? Et j'avais beaucoup insisté sur le fait que au 19e siècle et au début du 20e siècle, ces violences, elles sont beaucoup liées à la pauvreté dans la ville, au mode de vie des catégories populaires. Voilà. Et échapper à la fascination de Marseille, c'est aussi ne pas laisser le discours sur la ville cosmopolite où tout se passe bien, une sorte de société idéale, envahir le discours scientifique ou même l'observation scientifique du terrain, parce qu'évidemment, tout le monde se rend bien compte que ça n'est pas vrai, ça n'est pas le cas. Que la société marseillaise, elle est particulière, mais elle est en aucun cas idéale sur ce plan, pas plus qu'une autre d'ailleurs. Et d'ailleurs, un des premiers livres que j'ai publié ensuite, j'ai dirigé plutôt un ouvrage collectif qui s'appelle Les batailles de Marseille, Immigration, violence, conflit. Il faut le faire comme sous-titre. Hein.
Oui,
au
oui.
début, ça a été un petit peu compliqué à faire admettre.
Oui.
Non pas que l'immigration provoque du conflit, mais que dans une société où il y a beaucoup d'immigration, il y a nécessairement aussi du conflit, et c'est ce que on a voulu montrer, mon collègue Stéphane Bourlane et moi qui avons dirigé cet ouvrage, en 2013 déjà. Mmh. Un peu comme un pied de nez quelque part à une vision qui nous paraissait trop simpliste et trop idéaliste de cette histoire, en tout cas trop chargée de discours. Mmh. Et l'idée, c'était un peu de faire apparaître la complexité, la très grande complexité de cette société et de cette ville, qui est très souvent caricaturée, je trouve.
Bien sûr. Et les politiques y contribuent souvent, et beaucoup, oui.
Ah bah oui, les politiques y contribuent parce que le cosmopolitisme est un élément de langage politique. Voilà. Alors il est utilisé soit dans son versant négatif, souvent par la droite ou l'extrême droite, dans les périodes de très fort nationalisme. Mmh. Donc là, c'est le discours contre l'étranger, contre le cosmopolitisme. Notamment, on le voit très fort dès la fin du 19e siècle et dans les années 30, 1930. Mmh. Ou alors il est utilisé pour valoriser la ville, valoriser son histoire, et donc il est récupéré aussi politiquement, et ça on l'a vu assez fort à la fin des années Godin, c'est encore un peu le cas aujourd'hui d'ailleurs, hein, oui. Il y a un discours sur le cosmopolitisme de Marseille, qui encore une fois n'est pas faux, mais tout dépend ce qu'on met derrière le mot cosmopolitisme, situation totalement pacifiée et idéale où tout se passe bien, ou si c'est un mélange de personnes et d'idées et de religions, et que ça provoque nécessairement des situations de tension dans la ville. Mm-hmm. Donc effectivement, il est aussi récupéré politiquement.
Bien sûr, il est toujours à l'ordre du jour d'une façon ou d'une autre.
Toujours. Alors que si on regarde avec objectivité les données, Marseille n'est absolument pas aujourd'hui la ville la plus cosmopolite de France.
Voilà.
Hein, c'est une évidence. La ville la plus cosmopolite de France, c'est Paris.
À l'évidence.
Voilà. Mais la ville qui a l'image la plus cosmopolite, c'est Marseille. Et ça, c'est un construit historique depuis très très longtemps d'ailleurs.
On dirait que Marseille ne fait pas partie de la France.
Alors ça c'est une autre question. Ça, c'est une autre question. Il y a une part de responsabilité des Marseillais qui, dans leur histoire, ont souvent eu une attitude un peu rebelle, politiquement, voire indépendantiste, enfin presque indépendantiste, une méfiance vis-à-vis du pouvoir central. Et puis, ça, c'est assez classique aussi, hein, dans un certain nombre de pays, les deux plus grandes villes s'opposent, du moins symboliquement. Et donc, là, il y a aussi une histoire des représentations de cette indépendance marseillaise qui est très intéressante à faire.
Oui. Et qui remonte très, très loin.
Qui remonte très loin, on peut remonter au moins à Louis XIV.
Et même au moment de la République romaine, puisque Marseille choisit Pompée et que les autres choisissent César.
On peut remonter très loin.
Et moi, j'ai coutume de dire, Marseille est un port grec, Arles, capitale des Gaules, était un port romain. C'était deux choses complètement opposées. Et aujourd'hui, je finis là-dessus parce que ce n'est pas le sujet, il y a eu une tentative de métropoliser la totalité des Bouches-du-Rhône. C'était l'idée du gouvernement. Mm. Et finalement, les Arlésiens s'y sont opposés et ils ont réussi. C'est-à-dire, la Romaine a réussi à ne pas rentrer dans l'orbite grecque.
Mais oui.
On est toujours dans...
Bon, il y a souvent des conséquences dans le présent de l'histoire longue.
Donc merci. Donc Marseille est là au cœur de vos préoccupations.
Marseille est au cœur, voilà. Oui.
Vous n'avez pas vécu l'arrivée en 84 de Jean-Marie Le Pen qui disait « Cette ville est à moi », avec toute l'inquiétude que ça a pu générer. Vous n'avez pas vécu non plus la tentative vigoureuse de dire « Je rassemble toutes les communautés, toutes les religions, puis j'essaye de les faire unir », ce qui a d'une certaine façon marché. Hein. Donc il a fait dans le cosmopolitisme, mais à sa façon. Un peu ronde, un peu pas excessive. Ouais. Bon, ça, c'est le passé.
Je ne les ai pas vécues, mais je les ai étudiées.
J'imagine. Pour nous, c'est vraiment le passé de cette ville. Je ne suis pas Marseillais d'origine non plus, et à Bibe non plus. Donc, on est tout à fait à l'aise pour dire qu'on y est bien, on la connaît, on en connaît les palpitations, les coups de colère, on connaît tout ça d'assez près, puis on y réfléchit, on y travaille. Voilà. Donc, parlons donc de ce dernier livre qui est publié donc, chez un éditeur que je ne connaissais pas, Anna Moza, qui est sorti donc à l'automne 2022 et que je vais vous laisser présenter. C'est un très très gros livre, très documenté, plein d'images. Enfin, bon, voilà.
Oui, alors Anna Moza, c'est une maison d'édition qui est assez jeune, qui a une petite dizaine d'années maintenant, à peine, qui publie des ouvrages de sciences sociales.
D'accord.
Avec cette idée de publier des livres accessibles à tout le monde. Mmh. Donc ça, c'est déjà un premier défi, c'est-à-dire qu'il faut que le travail du chercheur soit accessible au public. Avec l'idée derrière qu'on peut dire des choses compliquées de manière simple et attrayante.
Voilà.
Alors, c'est un livre qui est, donc vous dites gros. Alors, oui, il est un peu volumineux là. C'est un beau petit pavé orange. Il y a un travail sur la maquette et sur l'édition qui est assez remarquable.
Tout à fait.
Alors, en fait, c'est un travail de recherche de 5 ans qui est parti. Alors, d'une sorte de coïncidence. Je travaillais dans les fonds des archives départementales avec cette idée. Moi, je suis fascinée par les villes portuaires, par les ports. Et donc, je travaillais comme on le fait parfois quand on a le temps et la chance de le faire. C'est-à-dire, je regardais des archives sans vraiment avoir une idée derrière la tête. Plutôt, j'avais une idée, c'était que je voulais trouver des archives qui montrent que Marseille était un port de départ.
D'accord.
Vers l'Amérique latine notamment.
Plutôt qu'un port d'arrivée.
En plus d'un port d'arrivée.
En plus, voilà, les deux.
C'est-à-dire qu'on était dans un groupe de recherche à ce moment-là à la MMSH avec mes camarades et au laboratoire Télème aussi dans lequel je travaille, où on travaillait beaucoup sur les migrations et sur cette nouvelle idée que les migrations ne sont pas que des installations de gens qui viennent s'installer quelque part et puis qui ne bougent plus. Mais c'est des circulations, les gens passent, ils traversent des villes, ils reviennent, etc. Et donc, j'étais dans les fonds de la police du port de Marseille. Et tout à coup, j'ai découvert plein de dossiers, non seulement des listes de passagers qui partaient de Marseille, mais aussi plein de dossiers de Syriens. Alors, c'est comme ça qu'ils sont appelés dans les archives.
Ouais.
Qui arrivaient à Marseille, qui repartaient et à qui il arrivait plein de problèmes avec la police. Non, pas avec la police. Il arrivait plein de problèmes et donc la police en avait connaissance. Et ça m'a extrêmement intéressée, parce que je ne connaissais pas cette histoire. Et j'ai reconnecté cette découverte d'archives avec un vieux dossier que j'avais vu pendant que je préparais ma thèse, qui est un dossier d'assassinat qui a été jugé à la cour d'assises en 1908, où il y avait déjà... La victime était une Syrienne de passage à Marseille, et l'assassin était également un Syrien, alors lui installé à Marseille. Et sur le coup, je n'avais rien fait de cette histoire dans ma thèse, parce que... J'arrivais pas à l'utiliser, hein, donc ça fait partie des choses dont on a l'habitude dans la recherche, c'est-à-dire qu'il y a des tas d'archives qu'on voit, puis finalement on les utilise pas. Bon, je l'avais mis de côté. Et j'y repensais, je suis retournée voir ce dossier, et en fait je me suis rendu compte que c'était la même époque, les mêmes personnes et le même phénomène. Et à partir de là, j'ai eu vraiment très envie de comprendre qui étaient ceux qui étaient appelés des Syriens. Dans ces archives, où ils allaient, pourquoi il leur arrivait tout ça. Et j'ai assez vite senti qu'il y avait un sujet vraiment neuf, qui est non pas l'arrivée dans une ville pour s'y installer, mais le passage dans une ville pour aller ailleurs. Et c'est pour ça que ça s'appelle « En transit ». Parce que ça porte sur le transit des personnes dans les villes portuaires, sur la période que j'aime bien travailler, moi, qui est la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. Et dernière précision, ces Syriens sont en fait, au sens actuel du terme, des Libanais, plutôt. Hein. Il y avait quelques Syriens, mais au sens actuel du terme.
Beaucoup plus des Libanais.
Mais oui, beaucoup plus des Libanais, de la région de Beyrouth, de la montagne du Mont Liban.
Ouais.
Voilà. Alors, c'était pas inconnu. Hein. On avait des travaux... sur ces Libanais qui passaient par Marseille et notamment qui sont allés pas mal en Afrique de l'Ouest. On avait déjà des travaux là-dessus. Et puis, en faisant de la bibliographie, je me suis rendu compte que c'était un phénomène qui était assez connu, par exemple, pour les États-Unis ou pour l'Amérique latine. Mais sur Marseille, il n'y avait pas eu véritablement de recherche là-dessus.
Donc, nous, cette idée, donc, hein, les Syriens... Alors, d'où Marseille, mais à Beyrouth, à Marseille, au Havre et à New York. C'est-à-dire, vous... Suivez le parcours dans sa plus grande extension possible.
Oui, alors, d'une part, je n'ai pas travaillé sur l'Amérique latine parce que je ne parle pas l'espagnol, je ne le lis pas, donc j'ai préféré travailler sur New York parce que là, je veux maîtriser la langue. Non, en fait, les quatre villes, c'est venu plus tard dans ma réflexion. C'est-à-dire, je me suis dit, si tu n'étudies que ce qui se passe à Marseille, tu auras nécessairement un cas particulier et tu ne pourras pas dégager forcément des grandes tendances. Ça, c'est un classique de la recherche, c'est-à-dire, si vous étudiez un échantillon, vous allez voir que ce qui se passe dans cet échantillon. Alors, si vous comparez avec deux échantillons, voire trois échantillons, vous allez avoir... des éléments de comparaison pour avoir une analyse un peu plus riche. Et puis, ça m'intéressait effectivement de voir comment c'était organisé dans d'autres villes, parce que j'ai assez vite eu l'intuition que le transit, c'était vraiment conditionné par la structure urbaine de la ville. Mmh. Et comme Marseille, c'est une ville particulière quand même, et dans ces quatre-là, il n'y en a pas une qui ressemble à une autre.
Absolument.
Je me suis dit, l'organisation urbaine joue un rôle, et donc ce serait intéressant de voir. Et pour finir sur votre question, j'ai pas... le livre n'est pas construit en suivant les gens. Le livre, il est construit en prenant appui sur des situations, des moments que vivent les migrants, et à chaque fois en essayant de voir ce qui se passe dans les différentes villes, dans ces différentes situations. Donc, par exemple, le contrôle des papiers ou le contrôle sanitaire,
oui.
Les différentes arnaques auxquelles ils doivent se confronter, enfin, du moins les services qui leur sont offerts et qui, en fait, peuvent s'avérer être des arnaques, les différentes ressources qu'ils ont, dont ils se servent, les lieux où ils vivent, enfin voilà. Ça, c'était tous les thèmes que je voulais étudier et que j'ai essayé de décliner sur les quatre villes.
Voilà, il faut faire le rapport, oui, qu'est-ce qui se passe dans la police à Marseille, qu'est-ce qui se passe pas de la même façon au Havre.
Exactement.
Puisque là, vous développez beaucoup là-dessus, le Havre, c'est pas du tout la même fonction que Marseille,
tout.
Rien à voir.
Non, rien à voir, parce que c'est une ville... Alors, faut peut-être expliquer aux auditeurs pourquoi le Havre.
Oui, ah, oui. Allez-y, bien sûr.
Oui, parce que c'est pas très clair comme ça.
Oui.
Autant Beyrouth, on voit bien, c'est le port de départ, New York, c'est le port d'arrivée.
Il y a un bateau tout le temps, voilà, c'est ça.
Ouais. Alors, pourquoi le Havre? Parce qu'en fait... la liaison Marseille-Amérique du Nord, elle existe. Il y a un bateau par semaine, c'est pas beaucoup. Et donc, il y a pas mal de migrants qui passent de Marseille par Paris et ensuite par le Havre, parce que la liaison est beaucoup plus courte et beaucoup plus fréquente. Donc, en fait, on se retrouve avec une quantité de population assez importante qui transite par le Havre. Et ça, déjà, ça nous donne un premier indice. Ça veut dire que les migrants pensent leur voyage.
Ils ont un projet.
Ils ont un projet.
Ouais, c'est ça.
Voilà. Et donc, ils se disent, on va arriver à Marseille et ensuite, on achètera un billet combiné, ou ils l'ont déjà souvent, Marseille-Paris, Paris-Le Havre, Le Havre-New York. Donc, voilà pourquoi Le Havre. Mais ça, je ne l'ai pas découvert tout de suite. Hein. Je l'ai découvert
d'accord.
en travaillant vraiment les archives de Marseille et je me suis posé la même question. Pourquoi Le Havre? Et je me suis rendu compte que, oui, c'est plus pratique et souvent plus économique.
Bien sûr. Bien sûr.
C'est pas ça, c'est que moi j'ai reçu des dons vachement importants par le Havre pour le sinistre syrien. Alors j'ai pas compris.
Alors, ça pour le coup, je sais pas. Donc ça voudrait dire qu'il y a peut-être une communauté.
Il y a encore une communauté syrienne au Havre.
Syrienne au Havre importante, c'est fort possible.
Qui est restée.
Et puis le Havre, c'est une ville qui, dans sa configuration urbaine, n'est pas du tout organisée comme Marseille.
Absolument.
La gare est assez proche du point d'embarquement et de débarquement, et la compagnie générale transatlantique, qui est toute puissante au Havre, en fait elle vend des billets combinés chemin de fer bateau, voilà, ce qui fait que il faut quelques heures pour passer de l'un à l'autre, et donc il n'y a pas cette présence dans la ville et cette recherche d'une solution comme à Marseille. Donc il y a une appréhension de la ville qui est complètement différente.
Ouais, sûrement. Et aussi bien, on sort du train et on prend le bateau qui part dans la journée.
Le plus rapide, c'est quelques heures.
Voilà, c'est ça.
Hein, et donc ça, évidemment, ça laisse pas la place à toutes sortes de personnes qui veulent profiter de votre situation.
Ouais.
Alors qu'à Marseille, les plannings des bateaux et des trains sont pas coordonnés, ou d'un bateau et d'un autre, et la gare n'est pas à côté des zones d'embarquement et de débarquement, et il y a toutes sortes de choses qui se passent dans le centre-ville.
Voilà, sur le long du boulevard
voilà.
des Dames.
Voilà. Ouais, en particulier, voilà, dans ce coin-là. Ouais.
Et oui, c'est ça. Ouais. Oui, c'est là où le nouveau immigrant est livré à lui-même, sans connaître, ou alors il a peut-être des attaches, mais est-ce qu'il y a des filières installées par les premiers Syriens qui arrivent pour les suivants? Oui.
Oui, il peut y avoir ça. Alors, c'est pas forcément des filières, c'est des adresses qu'on donne. C'est des adresses qu'on donne. Alors, il y a des filières dans le sens où on retrouve des phénomènes classiques, c'est-à-dire des familles ou des groupes de villageois qui vont se retrouver dans telle petite ville à destination. Mais ils vont pas tous forcément arriver en même temps.
D'accord.
Mais c'est la définition d'une filière migratoire. Ça existe, bien sûr. Mais ce qui existe aussi pour faciliter le transit, c'est que beaucoup de personnes arrivent avec une carte de visite, une adresse à Marseille, un nom. Mais bon, le 19e siècle, c'est pas aujourd'hui. Donc il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas Internet, il n'y a pas tout ça. Donc ils arrivent avec quelques informations souvent sans parler la langue.
Oui.
Et donc, le fait d'être abordé à l'arrivée à Marseille par des gens qui parlent leur langue et qui essayent de les attirer dans leur commerce, dans leurs hôtels, etc., ça crée la, ça laisse l'espace de la transaction commerciale, on va dire, ouais, qui peut bien se passer ou mal se passer.
Mmh.
Ça, c'est quelque chose qui, moi, m'a beaucoup intéressé, c'est que, et ça existe encore aujourd'hui, c'est-à-dire que le passeur, c'est quelqu'un dont on a besoin.
Mmh.
Ça peut bien se passer, ça peut bien se passer ou mal se passer. C'est souvent un compatriote ou quelqu'un qui parle la langue. Et ça, c'est d'une actualité totale.
Absolument. Sur d'autres parcours que celui-là.
Sur d'autres parcours.
Oui, oui, tout à fait. La même chose. Oui. Le passeur indispensable, le passeur qui peut être un voyou ou bien.
Notre parcours, ce n'est pas le même. Vous allez voir.
Non, j'imagine bien parce qu'il y a quelque chose qui a. L'histoire de ces pays, de ces États. A énormément évolué.
Bien sûr.
Ce qui est très important de dire aussi aux auditeurs, c'est que moi j'écris sur une période où le franchissement des frontières est assez facile.
Hein? On peut
à partir du moment où il n'y a pas de maladie.
C'est à partir de 1910 par là, non?
C'est plutôt là.
Alors le livre porte sur la période avant la Première Guerre mondiale. Disons que les frontières ont commencé réellement à devenir difficiles à franchir après la Première Guerre mondiale.
Voilà.
Avant, on est dans une période de relative liberté. Bon, il y a quelques difficultés, mais qui ne sont pas insurmontables. Donc, il faut se mettre dans l'idée que moi, j'écris sur un monde où les gens, s'ils ont un peu d'argent, s'ils ne sont pas malades et qu'ils ont envie de partir,
mais
ils,
y avait,
ils peuvent
y
le
y
faire.
Mais il y avait la famine, quand même. Alors, je ne sais pas si vous avez... Vous
après
en... Oui. Vers 1906 ou un truc comme ça, la famine, cette histoire de...
Non, la famine, la très grande famine du Liban, c'est 1916. C'est pendant la Première Guerre.
C'est pendant la guerre.
C'est une catastrophe.
Ouais.
Moi, j'écris à une époque où la situation économique au Liban, elle commence à être difficile, ce qui explique d'ailleurs l'envie de partir.
Le départ, bien sûr.
Où l'Empire ottoman commence à devenir plus autoritaire, avec une... politique un peu plus favorable aux musulmans. Or, la plupart des migrants dont je parle là sont des chrétiens. Mais où les conditions de vie ne sont pas encore dramatiques. Elles le sont devenues beaucoup plus avec la guerre, avec la famine.
D'accord.
Et puis ensuite, tout a radicalement changé de toute manière avec la fermeture, la mise en place des quotas aux États-Unis. En Amérique du Sud, les frontières ont commencé à devenir beaucoup plus difficiles à franchir, à tel point qu'une grande partie de l'émigration syro-libanaise s'est réorientée vers l'Afrique occidentale. Hein. Voilà. L'entre-deux-guerres, c'est ça la destination principale.
Bon, je crois que c'est bien d'insister sur le fait d'énormes pompes aspirantes qu'a été le continent américain, pour toute l'Europe, pour la Syrie aussi, pour tout le monde entier pendant toute cette période.
Oui, alors...
C'est qu'il y a
oui.
Je ne sais pas si vous en parlez, je vais le lire de toute façon... Il n'y a pas que les catholiques. C'est ça que l'Empire ottoman a persécuté, c'est vrai, mais il a beaucoup persécuté les alaouites, les chiites.
Oui, alors de toute façon, ce ne sont pas des catholiques, hein, ce sont des maronites, ce sont des orthodoxes. Oui, alors ils ne sont pas, en réalité, dans les années 1880, ils ne sont pas persécutés. La situation est stabilisée. Bon, ça, on pourrait y revenir. Ça a été un serpent de mer de l'historiographie et du journalisme parce que eux-mêmes ont dit qu'ils étaient persécutés dans leur pays. Ils ont beaucoup dit ça en arrivant en Amérique latine et aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que c'était facile de dire qu'on est persécuté. Donc ça facilitait d'une certaine manière l'accueil.
Oui.
Oui, alors. Pour répondre à votre question, en fait, c'est effectivement un mouvement migratoire qui a replacé dans cette immense mobilité à l'échelle de la planète au XIXe siècle, qui est liée à l'accélération des transports.
Oui.
Hein, évidemment, s'il y a des trains et des bateaux à vapeur, ça va plus vite. Et oui, il y a 55 millions d'Européens qui quittent le continent européen pour l'Amérique du Nord et du Sud en un siècle. Donc c'est énorme. Et le Moyen-Orient n'échappe pas
au
à cette règle.
En général, oui.
Voilà. Ce qu'il y a, c'est qu'à partir des années 1920, les États, l'Amérique du Nord surtout, les États-Unis, mais aussi les États d'Amérique du Sud, ont commencé à restreindre les entrées sur leur sol de certaines provenances, notamment l'Europe de l'Est, l'Europe du Sud.
D'accord.
C'est la fameuse politique des quotas, 1921-1924. Et donc ça bouleverse un peu les possibilités de circuler. Mais moi, j'aime bien cette idée. Je trouve que c'est très important de dire aux gens aujourd'hui que la fermeture des frontières n'a pas toujours existé, et que c'est pas une obligation. On peut fonctionner dans un monde qui fonctionne autrement. C'était un de mes buts aussi en écrivant ça.
Un message de très très grande importance, très très grande importance.
Ouais. Je le dis facilement sur votre antenne.
C'est voilà, vous êtes la bienvenue pour ça, Roselyne. Tu venais de
vous
dire.
Vous m'entendez?
Oui, on t'entend très bien.
J'ai une question, Madame Régnard. Je me demandais pourquoi les Occidentaux, quand ils vont à l'étranger, on les appelle des expatriés, et les autres qui viennent d'Afrique ou d'Asie, des migrants. Alors qu'ils y vont pour les mêmes raisons, parfois, et voilà, pour quand ils vont s'y installer, en tous les cas.
Oui, bah vous posez une question qui a trait à la terminologie qu'on utilise.
Eh oui.
Je suis d'accord avec vous. Je pense que vous avez déjà la réponse à cette question. Alors déjà, à partir du 19e siècle, le vocabulaire se fige, notamment à partir des années 1830, en France, mais ce n'est pas le seul pays, on distingue le réfugié de la personne qui opère une migration économique qu'on n'appelle pas encore un migrant, mais disons qu'on crée la catégorie réfugié au milieu du 19e siècle. Pourquoi ? Parce qu'on crée des lois qui protègent et qui viennent en aide à ceux qui demandent l'asile politique. Donc le 19e siècle, c'est un siècle de révolution. Il y a énormément de populations qui se déplacent, qui sont déplacées. Et dans les années 1830, arrive en France un nombre considérable de gens qui fuient des situations politiques intenables pour eux et qui viennent se réfugier en France. Et donc, la loi entérine ce vocabulaire et on utilise à partir de ce moment-là le terme de réfugié. Et on leur accorde des droits. Droits d'asile, un certain nombre de devoirs et des droits, notamment un soutien financier, mais des obligations de se soumettre à un contrôle préfectoral notamment. Donc il y a tout un système légal et une terminologie qui se fixe au 19e siècle. Le mot immigrant, il apparaît à la fin du 19e siècle. C'est à peu près le même en anglais, c'est à peu près le même en espagnol. Donc c'est un mot qui arrive à la fin du 19e siècle, qui désigne des populations qui viennent chercher du travail ailleurs. Donc il est souvent réservé à des gens qui opèrent une migration économique. Et il est assez vite chargé d'un certain nombre de connotations, évidemment. Et donc aujourd'hui, on est héritier, d'une certaine manière, de cette distinction, qu'on peut considérer assez imprécise, puisque finalement, dans les migrants aujourd'hui, dans ceux qu'on appelle les migrants, il y a aussi un certain nombre de gens qui quittent des pays en guerre et qui demandent l'asile politique. Et il y a d'autres gens qui sont des migrants économiques. Et ma foi, je ne vois pas ce qu'il y a de condamnable à aller chercher ailleurs une situation meilleure. Et comme vous le dites, et c'est là où je rejoins votre question, eh bien nous, quand nous faisons ça, nous les Européens, nous sommes considérés comme des expatriés. Quand nous allons chercher ailleurs meilleures conditions de travail. Donc tout ça est une question de vocabulaire et de point de vue. On pourrait considérer effectivement que... ces Libanais de la fin du 19e siècle sont des expatriés. On ne les appelait pas comme ça à l'époque, mais on pourrait très bien considérer cela comme ça.
Est-ce que justement la recherche de travail, de famille, un peu d'argent, de moyens financiers est un élément de choix dans ces 300 000 Syriens qui sont...
C'est fondamental. C'est
fondamental, voilà.
Alors l'origine de ce courant migratoire, c'est à la fois un développement économique qui a été très rapide de cette région, donc de la région d'origine, Beyrouth, Mont-Liban essentiellement, au milieu du 19e siècle, fondée sur une mutation de l'agriculture. C'est-à-dire qu'on passe à une agriculture de subsistance, à une agriculture productiviste autour de la production de la soie et du verre à soie, avec des investissements de capitaux étrangers. Mais en 1869, le canal de Suez est ouvert.
Voilà.
Ça modifie les circuits économiques internationaux. C'est des histoires de mondialisation,
bien
tout
sûr,
ça.
Bien sûr.
Donc, les paysans libanais qui produisaient de la soie, ils ont une soie beaucoup moins chère qui leur fait concurrence. Des investisseurs vont chercher ailleurs la matière première. Et ils se retrouvent avec à la fois un exode vers les villes qui a commencé, donc une société qui a commencé une mutation vers la modernisation, un boom démographique très important, et beaucoup moins de possibilités de gagner sa vie en produisant la soie.
La soie.
Et donc, ça, c'est un historien américain qui est spécialiste de cette région qui l'explique très bien. Il y a toute une génération qui se retrouve sans beaucoup de perspectives. Qui... Alors, ça, c'est toujours très intéressant dans les histoires de migration. Il y en a quelques-uns qui vont tenter leur chance à l'étranger, notamment aux États-Unis. Vous savez, c'est la période des grandes foires internationales. La foire de Chicago, il y en a eu d'autres. Donc, ils vont tenter leur chance. Ils vont vendre quelques articles comme ça. Donc, à l'époque, il faut imaginer un périple dans des bateaux à voile. Ils mettent 3 semaines à traverser l'Atlantique. Ils arrivent là avec quelques tissus, quelques bijoux, quelques effets d'artisanat. Ça marche bien. Ils rentrent chez eux. Ils ont ramené pas mal d'argent, donc ils se disent on va essayer aussi, et voilà. Et après, c'est parti. Oui. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, ce qui est très intéressant dans cette migration, c'est que d'abord, il n'y a pas que des pauvres qui s'en vont. Il y a aussi des gens qui ont fait des études, il y a des gens qui vont tenter leur chance ailleurs. Et puis, il y a quand même une grande, grande partie de paysans pauvres. Mais ceux qui partent ne sont jamais les plus pauvres. Et ça, c'est encore vrai aujourd'hui.
Oui.
Pour partir, il faut de l'argent.
Oui.
Mais oui.
Un minimum. Ouais. Donc,
c'est en histoire, ça.
Ouais. Ils empruntent, ils hypothèquent des terres, ils font des sacrifices incroyables. Donc, souvent, une famille place tous ses espoirs dans une personne. Pour partir, et cette personne renvoie de l'argent d'ailleurs à sa famille, et ensuite il y en a d'autres qui partent, et voilà, et ça s'est fait comme ça. Et aux États-Unis, la société sur laquelle j'ai travaillé, mais c'est la même chose en Amérique latine, une petite moitié d'entre eux sont devenus colporteurs, ils ont fait du commerce. Et puis il faut pas oublier non plus une bonne partie d'entre eux sont devenus des ouvriers. Et puis, comme c'était des sociétés assez ouvertes à l'époque, assez rapidement, en une génération ou deux, ils ont ouvert des commerces, ils se sont intégrés dans les sociétés d'accueil. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ont oublié la
bien
société
sûr,
de
non,
départ,
pas
mais
du tout.
Disons, ils ont réussi leur pari, pour beaucoup.
Voilà. Et ils ne sont pas victimes de la barrière raciale, raciste aux États-Unis.
Alors, un peu quand même.
Ah voilà, racontez-nous.
Oui, un petit peu quand même. Alors, disons que d'abord, les États-Unis commencent à être vraiment très préoccupés de la question de la race, des races, à la fin du 19e siècle. C'est tout le courant nativiste qui va finir par l'emporter, d'ailleurs. C'est eux qui ont imposé les lois sur les quotas. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, les Américains interdisent l'entrée sur le territoire américain aux Chinois dès 1882. Ils commencent déjà à trier.
Ça y est. Ah oui.
Bon, les Syro-Libanais, les Palestiniens, disons tous les Moyen-Orientaux ne sont pas concernés dans un premier temps par ces restrictions. Mais on voit très bien, parce qu'il y a des études qui sont produites, que ça préoccupe quand même beaucoup la société américaine, en tout cas les intellectuels, de savoir où les classer d'un point de vue racial.
D'accord.
Parce que la société américaine est fondée quand même, les pères fondateurs américains, c'est quand même les WASP, les White Anglo-Saxon Protestants. Donc, voilà. Donc, eux ne sont pas tout à fait blancs, ne sont certainement pas anglo-saxons et ne sont pas protestants.
Oui, voilà.
Donc, ils ne cadrent pas quand même tout à fait dans le paysage.
Un peu caucasien, quoi.
Ils sont, alors, exactement, ils sont définis comme... Il y a une sorte de dictionnaire des races qui est publié en 1907, c'est assez fascinant. Ils sont définis comme sémites caucasiens. Ce qui ne les handicape pas trop dans la société de l'époque. Ils arrivent même, par un arrêt de la Cour suprême, à faire valoir le fait qu'ils sont blancs.
D'accord.
Et cet arrêt de la Cour suprême leur est extrêmement utile parce qu'ils peuvent à ce moment-là demander la citoyenneté américaine.
D'accord.
Parce que ne peuvent à cette époque-là demander la citoyenneté américaine que les personnes libres et de race blanche.
Blanche.
Mais ça n'empêche pas non plus, malgré cet arrêt de la Cour suprême qui date du début des années 1910, ça n'empêche pas que dans l'entre-deux-guerres encore, dans les années 1920-1930, il y a des cas de violence contre les Libanais, contre les Syriens, les Libanais, contre ceux qu'on appelle aussi les Arabes là-bas, dans la société américaine. Y a même des lynchages.
Ah.
Donc, c'est pas si facile que ça.
Ça.
Voilà. Il y a quand même, c'est pas si facile que ça.
C'est le nouveau venu qui est...
C'est le nouveau venu qui, dans le cadre d'une société où la race est vraiment une catégorie opérante, a du mal quand même.
À se faire accepter,
oui. Alors, ceux qui réussissent très bien économiquement, évidemment, se font accepter quand même dans la société américaine, mais il y a des histoires de violence jusque dans les années 1920-1930. Mmh.
Oui, c'est une population importante, je ne vois pas à peu près.
Alors, aux États-Unis, c'est 100 000 personnes en tout, d'arrivée. Après, évidemment, ils ont eu des enfants.
Bien sûr.
Il y a une deuxième très grande phase d'arrivée aux États-Unis de Libanais, c'est la guerre civile, donc beaucoup plus tard, à partir de 1975.
D'accord. Revenons au point de départ. Alors, ils sont ottomans de nationalité, je ne sais pas si on dit nationalité ottomane, enfin, ils sont sous l'Empire ottoman.
Exactement. Ouais.
Est-ce qu'on les laisse partir, c'est ce que vous semblez dire, mais est-ce que c'est très facile de s'en aller comme ça, ou est-ce qu'il faut quand même un peu organiser la fuite ?
Non, ce n'est pas très facile. Alors effectivement, ils sont ottomans dans une situation politique particulière. Ils habitent un territoire qui est une sous-région de l'Empire ottoman, qui bénéficie d'une certaine autonomie de ses propres lois.
Un vilayet, c'est ça.
Voilà. Mais il n'empêche que, officiellement, l'émigration, c'est-à-dire le départ de l'Empire ottoman, est interdit.
Voilà. Donc il y a une certaine prise de risque.
Officiellement. Alors... Il y a une prise de risque, oui et non. Alors, d'abord, il faut expliquer pourquoi c'est interdit. C'est interdit parce que le sultan ne souhaite pas que on ait une mauvaise image de l'Empire ottoman à l'étranger. Donc, il ne souhaite pas que des pauvres aillent parcourir le monde et donner une mauvaise image de l'Empire ottoman. Donc, officiellement, c'est interdit. Mais en réalité, il existe des laissez-passer. Pour circuler à l'intérieur de l'Empire ottoman. Mmh. Et il en existe aussi un certain nombre pour sortir de l'Empire ottoman qui ne sont délivrés en théorie qu'à des gens qui ont un certain niveau de vie, un certain statut social. Donc il y a une petite différence si vous êtes un paysan ou si vous êtes un universitaire ou un grand commerçant. Et ce qui se passe dans la réalité, c'est que... tous ceux qui veulent partir à peu près y arrivent en soudoyant l'administration.
Tout ça.
Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils payent et on leur donne un laissez-passer. Il y a une certaine ambiguïté sur le laissez-passer. Normalement, c'est pour l'intérieur de l'Empire ottoman. Mais ensuite, quand on paye la police à Beyrouth, on arrive à monter dans un bateau. Donc, prenant acte de cette situation, le sultan... change de politique à partir de 1898. À partir de 1898, voyant déjà, d'une part, que l'émigration rapporte énormément d'argent, d'autre part, que ça ne donne pas une mauvaise image à l'étranger, et ensuite que de toute façon, il y a des départs, un passage qui se fait de toute façon, il y a un assouplissement de la loi, et à partir de 1898, les départs sont légaux, ce qui n'empêche pas d'ailleurs les bakchiches de continuer à exister.
Ouais, bien sûr. Jusqu'à maintenant.
Ceux qui avaient l'habitude de les toucher n'abandonnent pas le job, évidemment.
Donc, en théorie, c'est interdit. En réalité, ça se pratique très largement, mais ça a des conséquences sur le transit à Beyrouth.
Alors,
parce que du coup, on transite beaucoup la nuit, on se cache, tout ça se fait très discrètement. Donc là, on retrouve mon sujet, c'est-à-dire comment finalement quelqu'un qui arrive de sa montagne arrive à monter dans un bateau. Parce qu'il connaît un hôtelier ou qu'il a de la famille, qu'il se cache, qu'il embarque de nuit sur une petite barque, qu'il a de l'argent à donner dans la poche de quelqu'un pour pouvoir monter sur le bateau. Donc tout ça n'est pas très facile.
Voilà. Le bateau n'est pas boraqué, donc.
Non. Ni à Beyrouth, ni à Marseille.
Ni à Marseille, d'ailleurs.
Les bateaux ne sont à quai.
C'est un peu actuellement, en Turquie, tout le réfugié syrien qui se trouve en Turquie, c'est ce qui se passe actuellement.
Mais bien
c'est
sûr.
La même chose.
Mais j'avais fait un article... il se trouve que quand le livre est sorti le 22 septembre, le lendemain, il y a eu un naufrage très grave. Il y a plus de 100 personnes qui sont mortes au large des côtes libanaises. Et dans ce bateau, il y avait à la fois des réfugiés syriens vivant au Liban qui voulaient partir et des Libanais qui voulaient partir en raison de la situation. Et ils sont embarqués clandestinement. En espérant gagner
Chypre
pour pouvoir ensuite être admis dans l'Union européenne.
Ils sont pratiquement tous
Ils sont tous, presque tous.
Hier, sur la chaîne El Mayadi, ils ont montré, ils ont fait un reportage dessus, en expliquant ce qui s'est passé et tout.
C'est le dernier grand naufrage le plus
naufrage
grave.
Naufrage le plus grave, oui.
Ça s'est passé le lendemain de la sortie de ce
livre.
Il y a un écho très fort avec l'actualité. Et ce qui rend la chose d'autant plus dramatique, c'est que c'est la politique des frontières actuellement qui crée ça.
Oh, elle est poreuse, quoi.
Oui.
Oui, mais si on pouvait rentrer en Europe avec une demande de visa,
voilà, oui, ça,
on n'aurait pas des morts.
Oui, exactement. Ça.
Mais ce qui se passe en Turquie, c'est des faux passeports avec un visa qui peuvent rentrer en Europe. C'est ça.
Mais c'est, oui, ils fabriquent de faux, bien sûr.
Oui, voilà.
Bah, tout interdit, je suppose qu'on essaye de le détourner. Bon, voilà, ça, pas
vous
de soucis.
Parlez beaucoup de New York. L'Amérique latine.
J'aurais bien aimé, mais
c'était vraiment.
Alors d'abord,
c'est
ça
vachement
faisait
important.
Le livre, il aurait été encore plus gros.
Oui.
Non, oui. Mais surtout, c'est une question de temps parce que ça veut dire aller sur place,
bien sûr,
pour chercher dans les archives. Ça veut dire pour moi, je maîtrise pas l'espagnol, donc j'aurais pas eu la même capacité d'analyse des archives. Ça aurait été plus difficile pour moi. Donc voilà, pour ces raisons-là, je l'ai
non,
pas
fait. Parce qu'on a une communauté très très importante,
très importante
où il y a eu un président de la République d'origine syrienne.
Oui.
Au Brésil, des parlementaires, des députés, des.
Oui. Il y a eu 200 000 arrivés en gros en Argentine et au Brésil à cette période-là, et 100 000 aux États-Unis et au Canada. Donc effectivement,
le continent.
C'est tout à fait.
Et sur l'Afrique, alors, vous citiez l'Afrique.
L'occidentale alors, française, oui.
Sur l'Afrique, il y avait quelques. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les villes de transit, c'est souvent des ports où on est amené à prendre des décisions qui changent ce qu'on avait prévu au départ. Et sur l'Afrique, ce qui s'est passé beaucoup à la fin du 19e siècle, c'est que soit les Libanais voulaient s'y rendre. Déjà, directement. Pourquoi ? Parce qu'il fallait des intermédiaires entre les colons français et souvent les producteurs. Et donc, ils jouaient les intermédiaires. C'est un système économique où il y avait besoin d'intermédiaires et il y avait aussi des possibilités de colportage. Donc, il y en avait quelques-uns qui étaient partis comme ça. Mais ce qui se passe aussi beaucoup, c'est que sur une décision de type les États-Unis, ça ne va pas marcher parce qu'on est malade, donc on va être refoulé. Et donc, la compagnie refuse de vous embarquer. À ce moment-là, il y a moins de contrôle vers l'Afrique. Donc, c'est une sorte de pis-aller qui finalement s'avère être un choix peut-être parfois un choix par défaut s'avère être assez concluant. Et alors dans l'entre-deux-guerres, à partir du moment où il y a un mandat français sur la France et sur la Syrie et le Liban. Il y a une immigration assez importante vers l'Afrique occidentale parce que c'est dans l'Empire.
Voilà.
Et c'est essentiellement des chrétiens maronites dans un premier temps, et du nord du Liban. Et ensuite, on constate que les arrivées de chiites sont de plus en plus nombreuses du sud du Liban, notamment qui viennent de la région de Tyr. Et puis, tout ça se ralentit, évidemment, avec la Seconde Guerre mondiale. Alors, moi, je n'ai pas travaillé là-dessus, mais Liliane Nasser, qui a fait sa thèse sur les Libanais à Marseille, a travaillé là-dessus. Et il y a aussi une thèse qui vient d'être soutenue récemment sur les Syro-Libanais en Afrique de l'Ouest. Donc, c'est un sujet qui est en train d'être travaillé.
Bien. Alors, notre association, elle a été créée par des anciens combattants de la Deuxième Guerre mondiale.
Oui.
C'est-à-dire que nos parents, ils étaient déjà à l'appel de De Gaulle, je crois que c'est en 1942, 40. C'est ça 42,
l'appel, c'est 40.
L'appel, c'est 40, mais après, il y a une ouverture.
Il y a eu l'appel de De Gaulle. Il a promis à la Syrie, donc, qui était sous protectorat français, l'indépendance, si on envoie des gens pour aider l'armée française pour chasser les nazis de la France.
Oui, alors bon. Ça, c'est un sujet que moi, je n'ai pas été jusque-là, voilà. Que je maîtrise moins, mais ce qui est certain, c'est que l'Empire colonial, au sens large, mmh. les troupes de l'Empire colonial ont joué un rôle fondamental dans la libération de la France.
Ah ben oui, décisif.
Et c'est donc en 1946, moi je me rappelle, j'avais 7 ans, je suis parti avec ma mère. Et mon père était déjà en France. On n'a jamais eu de nouvelles. On nous a dit qu'il est vivant. Mmh. Donc ma mère, elle est venue. Et on est passé par Beyrouth, avec le bateau Félix Roussel, jusqu'à Marseille. Et en 1946, De Gaulle a donné les choix à ses militaires brièvement, parce que sinon c'est très long. Il leur a dit, si vous voulez rester dans l'armée française, faire votre carrière... ou si vous voulez retourner dans votre pays d'origine, il n'y a aucun problème. La plupart de ces anciens combattants, ils ont voulu donc faire leur carrière avec la France, et on a atterri en Afrique occidentale française. Dakar, le Soudan, on l'appelait, avant, maintenant on l'appelle le Mali. On a été en Haute-Volta, on l'appelle maintenant Burkina Faso, puis ensuite en Côte d'Ivoire. Dès la Côte d'Ivoire, bien sûr, ces anciens combattants, ils ont été en Indochine, ils ont été en la Corée du Sud. Et puis, à leur retraite, ils se sont retrouvés, ils se sont donné le mot. Marseille, c'est notre...
Oui, alors ça vraiment, je me permets de vous renvoyer, c'est le dernier livre de Liliane Lasserre.
Voilà.
Donc moi, je n'ai pas du tout travaillé là-dessus, mais je connais cette histoire pour en avoir discuté avec elle. Et là où on peut rebondir peut-être, c'est de dire que Marseille a ce lien depuis très longtemps, fort. Intense avec ce qu'on appelait le Levant à l'époque, le Liban, Beyrouth, il y a vraiment un lien fort et qui existe encore aujourd'hui.
Qui date de l'ancien régime, qui est très long.
Tout à fait.
Vous avez évoqué la question sanitaire, parce que apparemment dans vos récits, dans les récits, ça joue un rôle très très important, puisqu'à la limite, ça va décider de l'endroit où on va aller in fine.
Et oui, c'est la grande question de cette époque-là. La question de cette époque-là, c'est moins votre visa ou votre passeport, qui est une question presque secondaire.
Que les épidémies.
La vraie question, c'est votre état de santé et si vous allez passer le contrôle sanitaire. Alors, je raconte toujours cette anecdote parce que ça me fait rire aujourd'hui, mais j'ai écrit ce passage du livre pendant le confinement. Donc, j'étais vraiment en plein dans le sujet, c'est-à-dire comment une épidémie peut vous empêcher de sortir ou de bouger. Alors, ce qui se passe, c'est que... il y a de toute façon une mondialisation, une accélération des échanges à l'échelle de la planète, qui est concomitante de plus en plus de découvertes scientifiques, c'est-à-dire la deuxième moitié du 19e siècle, c'est le moment où on va comprendre l'essentiel du fonctionnement de la contamination,
c'est Pasteur,
des virus, des bactéries, etc. Et donc tout ça arrive en même temps. Que se passe-t-il au point de vue international? Il y a des grandes conférences internationales de médecine dès le milieu du 19e siècle qui commencent à établir des lois pour faire en sorte que les épidémies ne circulent pas trop à l'échelle de la planète. Et ils jouent sur l'aspect développement de vaccins, mais pas très rapide quand même, donc les traitements, et ils jouent surtout sur l'aspect mise à distance. Et donc ça, c'est extrêmement important de rappeler ce contexte. Alors ensuite, sur cette population-là en particulier, comme le Moyen-Orient est un foyer épidémique important, eh bien il y a une très grande méfiance qui s'exerce sur cette population.
Il y a la peste.
À Marseille, on le sait. Il y a eu l'épisode de la peste qui a quand même énormément marqué la ville. Dans les années 1880, il y a encore du choléra à Marseille, il ne faut pas l'oublier. Il y a des alertes à la peste, c'est-à-dire que tous les jours, par les bateaux, il y a des gens qui ont des états, qui portent des marques, et donc on les met bien à l'écart. Le lazaret du Frioul fonctionne déjà depuis le milieu du 19e siècle. Et ce qui, en fait, va être décisif dans mon histoire, c'est... les États-Unis, en 1888, le gouvernement américain prend la décision de faire payer aux compagnies maritimes le retour de ceux qui ne sont pas admis après l'inspection sanitaire.
Ah, d'accord.
Et donc, si vous êtes inspecté et qu'on dit non, lui, il a une maladie des yeux, lui, il porte tel germe, une maladie de la peau, eh bien, la compagnie maritime doit payer pour vous renvoyer dans votre port de départ. Comme tout ça, c'est du business et bien que les compagnies maritimes ne veulent pas le faire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont inspecter les gens dans les ports de départ. Ils ne sont pas fous.
Bien sûr.
Donc, ça entraîne une réaction en chaîne qui fait que cette mise en place de la loi américaine a des effets dans tous les ports de départ, au Havre, à Marseille, etc. À tel point qu'il y a même des médecins américains qui viennent vérifier que ça se passe bien, que les contrôles sont faits, etc. Et dans les ports français, à certains moments, notamment j'ai trouvé un cas à Marseille en 1896, on se met à faire la même chose. C'est-à-dire qu'on met en quarantaine des gens qui arrivent avec une suspicion de choléra, dans le cas que j'évoque, et on dit, au départ à Beyrouth, c'est les messageries maritimes, vous allez contrôler. Et donc là, on se retrouve...
Les messageries mettent en place un bureau,
exactement,
un contrôle à Beyrouth.
Alors ça ne tient pas très longtemps, mais disons que pendant quelques mois, c'est le cas. Parce que qu'est-ce qui se passe? Comme les traversées sont de plus en plus rapides et qu'un bacille ou une bactérie ou un virus, ça met quand même un peu de temps à se déclarer, du coup, il y a des quarantaines imposées vérifier que les gens ne sont pas malades. C'est ce qui se passe à Ellis Island, c'est ce qui se passe au Frioul,
à Marseille.
Mais il y a une maladie qui est très répandue au Moyen-Orient à cette époque-là, qui est une maladie des yeux, qui s'appelle le trachome, et qui existe toujours aujourd'hui d'ailleurs, et qui est très très redoutée de la part des autorités sanitaires américaines. Et donc ça, c'est des histoires terribles, parce que c'est pas soigné dans les pays de départ, et les gens ont très peur. Ils savent que si ça se trouve, ils sont porteurs de cette maladie, ils ne vont pas pouvoir passer, etc. Voilà, c'est ça l'histoire du contrôle sanitaire. Et ça donne des drames, parce que, il y a des gens, du coup, qui sont rejetés et qui se retrouvent à errer, bloqués en France, parce qu'ils ne peuvent pas partir, mais qu'ils ne peuvent pas non plus rentrer parce qu'ils n'ont plus l'argent. Donc, ils se retrouvent dans des situations inextricables. Voilà.
Non, ce contrôle sanitaire a laissé des traces dans l'architecture marseillaise, puisque vous savez qu'il y a eu la création d'une installation sanitaire qui n'a jamais fonctionné.
Alors, elle a fonctionné quelques semaines.
Voilà, finalement, l'OMS a dit le contrôle se fait au départ, pas à l'arrivée.
Mais elle était très révélatrice cette angoisse.
Voilà.
C'est la station sanitaire du port qui se visite aujourd'hui. Il y a le musée Regard de Provence, qui a été d'ailleurs conçu par Pouillon.
Oui, tout à fait.
Accessoirement.
Tout à fait.
Et alors, elle a poussé des extrêmes modernes, un système qui existait déjà sur le Frioul, avec tout un système d'étuves, notamment, pour passer tous les bagages et les vêtements à l'étuve. Voilà. Il y avait aussi un hôpital, il y avait des logements pas confortables d'ailleurs, pour ceux qui étaient en quarantaine.
Oui, ça, c'est très important. Donc New York, on finit là-dessus, si vous voulez. New York, autre approche, donc approche très administrative, très cadrée, et puis la législation américaine s'impose au mouvement migratoire mondial dès qu'elle change.
Oui, alors comme c'est la destination principale de ce que j'ai étudié, les États-Unis, en fait, New York, pour moi, ça donne la pulsation de mon histoire.
Et oui.
Parce que c'est vraiment en fonction des lois qui sont votées là-bas, finalement, que tout ça existe et évolue. Donc, un événement très important de la période, c'est l'ouverture de Ellis Island, la station très, très connue d'arrivée à New York, mythique même, en 1892. Alors, qu'est-ce qui se passe à New York? À New York, avant 1892, il y a déjà une station d'immigration qui est là pour rendre des services aux gens qui arrivent, donc de leur donner des adresses, leur vendre des billets de train, les inscrire dans un registre. Donc le but, c'est absolument pas de renvoyer les gens chez eux, c'est d'enregistrer les arrivées, parce que c'est un pays d'immigration, mais il faut quand même savoir qui arrive, et de rendre des services. Bon, alors assez vite, cette station d'immigration qui se trouve...
C'est très bienveillant,
c'est relativement bienveillant,
voilà,
oui. Ça se trouve à Manhattan, ça, et assez vite, y a tout un tas de profiteurs qui sont autour.
Bien sûr.
C'est une sorte de vautour, comme ça, qui vole au-dessus de... Donc, ils veulent arnaquer le migrant qui arrive. Donc, que fait le gouvernement fédéral américain devant aussi l'ampleur, parce que dans les années 1900, c'est plusieurs millions de personnes par an qui arrivent. Donc, devant l'ampleur du phénomène, ils décident de ne plus laisser ça à l'État de New York, mais de récupérer sous l'autorité du gouvernement fédéral ce contrôle et de l'installer sur une île à distance de la ville. Et alors, à partir de ce moment-là, ça va devenir du contrôle, j'allais dire, à échelle industrielle.
Oui.
Qui est très fantasmé par les migrants, qui fait très peur, mais en réalité, d'Ellis Island, il n'y a que 2 ou 3% de gens qui ne rentrent pas aux États-Unis.
Oui. Hein.
Mais bon, ils ne rentrent pas quand même, donc oui, ça donne lieu à des
bien
histoires
sûr,
dramatiques.
Bien sûr.
Voilà, donc à partir des années 1890, c'est comme ça. Vous arrivez à Ellis Island, vous subissez beaucoup de contrôles. Si vous voulez vous rendre aux États-Unis, ben vous allez prendre un train, donc vous n'allez même pas mettre le pied à New York. Mm-hmm. Vous allez arriver dans une gare qui va vous emmener, une gare de New Jersey la plupart du temps, qui va vous emmener ailleurs. Et si vous voulez aller à New York, ben vous allez vous rendre dans la ville. Et il se trouve que le quartier syrien de New York est tout au bout de la pointe de Manhattan.
Ah oui.
Là où aujourd'hui, là où il y avait le World Trade Center, en fait. Là où aujourd'hui, il y a un quartier d'affaires.
D'accord.
Il y a là une dizaine de rues où il y a à peu près 1500 à 2000 personnes. Quand on regarde les recensements, c'est assez impressionnant, qui vivent là et qui accueillent leurs compatriotes. Donc, ils ont des commerces souvent de gros ou de semi-gros. Ils fournissent les colporteurs. Et c'est un quartier qui a aujourd'hui complètement disparu. Mais qui était très très important jusque à la Première Guerre mondiale. Du voilà, donc à New York, il y a une petite communauté aussi.
Est-ce que
aussi.
Vous en parlez, par exemple, de la communauté juive aussi qui a...
Alors, j'en parle pas, mais on a attiré mon attention sur le fait qu'il y avait des noms de famille juifs dans la population que j'ai étudiée. Comme la religion des gens n'est pas marquée sur les documents, moi je ne sais pas la plupart du temps, mais c'est une piste à creuser. Je sais qu'il y a des solidarités confessionnelles chez les chrétiens, ça c'est sûr, on en a la trace. Voilà. Je n'ai pas vu de mention de solidarité de ce type pour les juifs, mais je pense qu'elles doivent exister et ça sera peut-être. C'est à venir. Voilà. Épisode suivant.
Épisode suivant, c'est très très riche. Je regarde, on n'a plus beaucoup de temps. Est-ce que vous avez contacté la communauté melkite de Marseille?
Oui, voilà. Je les ai contactés.
Parce qu'ils sont arrivés un peu avant.
Oui, tout à fait. Enfin, j'ai été chercher dans les archives de la paroisse.
Paroisse Nicolas de Mire, oui.
Exactement. J'ai rencontré le prêtre actuel.
Oui, bien sûr. J'ai
pas trouvé grand-chose, à vrai dire.
Ah, c'est vrai.
Ouais, j'ai trouvé quelques. C'est mentionné dans le livre, hein, quelques micro-indices de solidarité, surtout au début de la période.
Ouais.
Mais ça a pas été très, très concluant.
Très concluant. Non. Ils étaient déjà là. Donc c'est
oui, ils étaient déjà là, donc... oui. Ils étaient là, ils avaient déjà une petite communauté.
Ils s'étaient installés, oui. Oui, puisqu'ils arrivent en 1820, puisqu'on
c'est
a célébré cet été, donc
c'est
l'été
ça.
Dernier,
les tout à fait, les deux avec les événements en Grèce.
Tout à fait, tout à fait. Voilà, donc d'autres pistes à creuser, et puis peut-être un complément avec des historiens latino-américains qui vous donneraient un coup de main pour aller regarder par là-bas.
Oui. Vous savez, pour faire une recherche comme ça, il faut du temps.
Il faut beaucoup de temps.
Il faut des financements, voilà, parce qu'il faut se déplacer.
Ouais, ça coûte.
Donc, voilà. Non, ce qu'on n'a pas dit, et je pense que c'est important de le dire, c'est que c'est un livre où il y a plein de photos, d'images, et plein de récits de vie. Parce que j'ai eu la chance de trouver des archives. Il y a une grande enquête ethnographique qui a été faite par une ethnographe américaine dans les années 1960-70 auprès des migrants de première génération. Donc il y a des témoignages. Et ça, c'est très rare quand on travaille en histoire des migrations, d'avoir des témoignages. Donc c'est un livre qui est aussi marqué par cette présence humaine que moi j'ai cherché à... J'ai cherché à retranscrire leur expérience, leur vécu.
Ça, c'est très très important. On est très heureux de vous avoir accueilli. On vous réaccueillera parce que c'était un seul travail et vous en avez fait d'autres, en particulier sur notre bonne ville de Marseille. Je signale, mais ça sera cité, un ouvrage très intéressant collectif sur la police à Marseille, qui est aussi très très riche.
Ouais.
Et puis un ouvrage atypique sur les Chinois pendant la Grande Guerre,
aussi,
qui est extraordinaire.
C'était une de mes marottes, oui.
C'est passionnant. Et qu'on retrouve là, il y a une trace de leur passage, vous le savez, dans le cimetière du Commonwealth.
Oui, bien sûr.
Vous la connaissez. Voilà. Merci encore Céline Reignard.
Merci
à très bientôt.
Merci.
Et donc l'émission repasse demain soir avec un petit complément biographique et puis elle repassera sur les podcasts de Radio Galère.
Merci.
Mille merci.
Au revoir.
Au revoir.
Merci.